Troisième partie, ce qui suit la surproduction. Un poète grec, du temps de Cicéron, Antipatros, chantait ainsi l'invention du moulin à eau pour la mouture du grain. Il allait émanciper les femmes esclaves et ramener l'âge d'or. Épargnez le bras qui fait tourner la meule, ô meunière, et dormez paisiblement. Que le coq vous avertisse en vain qu'il fait jour. Dao a imposé aux nymphes le travail des esclaves, et les voilà qui sautillent allègrement sur la roue. Et voilà que l'essieu ébranlé roule avec ses raies, faisant tourner la pesante pierre roulante. Vivons de la vie de nos pères, et oisifs, réjouissons-nous des dons que la déesse accorde. Hélas, les loisirs que le poète païen annonçait ne sont pas venus. La passion aveugle, perverse et homicide du travail transforme la machine libératrice en instrument d'asservissement des hommes libres. Sa productivité les appauvrit. Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que 5 mailles à la minute. Certains métiers circulaires à tricoter en font 30 000 dans le même temps. Chaque minute à la machine équivaut donc à 100 heures de travail de l'ouvrière. Ou bien, chaque minute de travail de la machine délivre à l'ouvrière 10 jours de repos. Ce qui est vrai pour l'industrie du tricotage est plus ou moins vrai pour toutes les industries renouvelées par la mécanique moderne. Mais que voyons-nous? À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la machine. Ô concurrence absurde et meurtrière! Pour que la concurrence de l'homme et de la machine prît libre carrière, les prolétaires ont aboli les sages lois qui limitaient le travail des artisans des antiques corporations. Ils ont supprimé les jours fériés. Parce que les producteurs d'alors ne travaillaient que 5 jours sur 7, croient-ils donc, ainsi que le racontent les économistes menteurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche? Allons donc! Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l'amour et rigoler, pour banqueter joyeusement en l'honneur du réjouissant dieu de la fainéantise. L'amoureuse Angleterre, encagotée dans le protestantisme, se nommait alors la joyeuse Angleterre, Merry England. Rabelais, Quevedo, Cervantes, les auteurs inconnus des romans picaresques, nous font venir l'eau à la bouche avec leur peinture de ces monumentales ripailles dont on se régalait alors entre 2 batailles et 2 dévastations, et dans lesquelles tout allait par écuelle. Jordaens et l'école flamande les ont écrites sur leurs toiles réjouissantes. Sublimes estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous devenus? Sublimes cerveaux qui encercliez toute la pensée humaine, qu'êtes-vous devenus? Nous sommes bien amoindris et bien dégénérés. La vache enragée, la pomme de terre, le vin fuchiné et le schnapps prussien, savamment combinés avec le travail forcé, ont débilité nos corps et rapetissé nos esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son estomac et que la machine élargit sa productivité, c'est alors que les économistes nous prêchent la théorie malthusienne, la religion de l'abstinence et le dogme du travail. Mais il faudrait leur arracher la langue et la jeter aux chiens. Parce que la classe ouvrière, avec sa bonne foi simpliste, s'est laissée endoctriner. Parce que, avec son impétuosité native, elle s'est précipitée en aveugle dans le travail et l'abstinence. La classe capitaliste s'est trouvée condamnée à la paresse et à la jouissance forcée, à l'improductivité et à la surconsommation. Mais si le surtravail de l'ouvrier meurtrit sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en douleur pour le bourgeois. L'abstinence à laquelle se condamne la classe productive oblige les bourgeois à se consacrer à la surconsommation des produits qu'elle manufacture désordonnément. Au début de la production capitaliste, il y a un ou deux siècles de cela, le bourgeois était un homme rangé, de mœurs raisonnables et paisibles. Il se contentait de sa femme, ou à peu près. Il ne buvait qu'à sa soif et ne mangeait qu'à sa faim. Il laissait aux courtisans et aux courtisanes les nobles vertus de la vie débauchée. Aujourd'hui, il naît fils de parvenu qui ne se croit tenu de développer la prostitution et de mercurialiser son corps pour donner un but au labeur que s'imposent les ouvriers des mines de mercure. Il naît bourgeois qui ne s'empiffre de chapons truffés et de laffites naviguées pour encourager les éleveurs de la flèche et les vignerons du Bordelais. À ce métier, l'organisme se délabre rapidement. Les cheveux tombent, les dents se déchaussent, le tronc se déforme, le ventre s'entripaille, la respiration s'embarrasse, les mouvements s'alourdissent, les articulations s'ankylosent, les phalanges se nouent. D'autres, trop malingres pour supporter les fatigues de la débauche, mais dotés de la bosse du prud'homisme, dessèchent leur cervelle comme les garniers de l'économie politique, les accolas de la philosophie juridique, à élucubrer de gros livres soporifiques pour occuper les loisirs des compositeurs et des imprimeurs. Les femmes du monde vivent une vie de martyrs. Pour essayer et faire valoir les toilettes féeriques que les couturières se tuent à bâtir, du soir au matin, elles font la navette d'une robe à l'autre. Pendant des heures, elles livrent leur tête creuse aux artistes capillaires qui, à tout prix, veulent assouvir leur passion pour l'échafaudage des faux chignons. Sanglées dans leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, décolletées à faire rougir un sapeur, elles tournoient des nuits entières dans leurs balles de charité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre monde. Saintes âmes ! Pour remplir sa double fonction sociale de non-producteur et de surconsommateur, le bourgeois dut non seulement violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d'il y a deux siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques, mais encore soustraire au travail productif une masse énorme d'hommes afin de se procurer des aides. Voici quelques chiffres qui prouvent combien colossale est cette déperdition des forces productives. D'après le recensement de 1861, la population de l'Angleterre et du pays de Galles comprenait 20 066 224 personnes, dont 9 776 259 du sexe masculin et 10 289 965 du sexe féminin. Si l'on en déduit ce qui est trop vieux ou trop jeune pour travailler, les femmes, les adolescents et les enfants improductifs, puis les professions idéologiques telles que gouvernement, police, clergé, magistrature, armée, prostitution, arts, sciences, etc. Ensuite, les gens exclusivement occupés à manger le travail d'autrui, sous forme de rentes foncières, d'intérêts, de dividendes, etc. Il reste en gros 8 millions d'individus des deux sexes et de tout âge, y compris les capitalistes fonctionnant dans la production, le commerce, la finance, etc. Sur ces 8 millions, on compte travailleurs agricoles, y compris les bergers, les valets et les filles de ferme habitant chez le fermier, 1 098 261. Ouvriers des fabriques de coton, de laine, de chanvre, de lin, de soie, de tricotage, 642 607. Ouvriers des mines de charbon et de métal, 565 835. Ouvriers métallurgistes, au fourneau, laminoir, etc. 396 998. Classe domestique, 1 208 648. Si nous additionnons les travailleurs des fabriques textiles et ceux des mines de charbon et de métal, nous obtenons le chiffre de 1 208 442. Si nous additionnons les premiers et ceux des usines métallurgiques, nous avons un total de 1 039 605 personnes. C'est-à-dire, chaque fois un nombre plus petit que celui des esclaves domestiques modernes. Voilà le magnifique résultat de l'exploitation capitaliste des machines. Citation de Karl Marx, Le Capital, tome 3. À toute cette classe domestique, dont la grandeur indique le degré atteint par la civilisation capitaliste, il faut ajouter la classe nombreuse des malheureux voués exclusivement à la satisfaction des goûts dispendieux et futiles des classes riches. Tailleurs de diamants, dentelières, brodeuses, relieurs de luxe, couturières de luxe, décorateurs des maisons de plaisance, etc. Une fois accroupis dans la paresse absolue et démoralisés par la jouissance forcée, la bourgeoisie, malgré le mal qu'elle en eut, s'accommoda de son nouveau genre de vie. Avec horreur, elle envisagea tout changement. La vue des misérables conditions d'existence acceptées avec résignation par la classe ouvrière et celle de la dégradation organique engendrée par la passion dépravée du travail augmentait encore sa répulsion pour toute imposition de travail et pour toute restriction de jouissance. C'est précisément alors que, sans tenir compte de la démoralisation que la bourgeoisie s'était imposée comme un devoir social, les prolétaires se mirent en tête d'infliger le travail aux capitalistes. Les naïfs. Ils prirent au sérieux les théories des économistes et des moralistes sur le travail et se sanglèrent les reins pour en infliger la pratique aux capitalistes. Le prolétariat arbora la devise « Qui ne travaille pas, ne mange pas ». Lyon, en 1831, se leva pour du plomb ou du travail. Les fédérés de mars 1871 déclarèrent leur soulèvement « la révolution du travail ». À ces déchaînements de fureur barbare, destructifs de toute jouissance et de toute paresse bourgeoise, les capitalistes ne pouvaient répondre que par la répression féroce. Mais ils savaient que, s'ils ont pu comprimer ces explosions révolutionnaires, ils n'ont pas noyé dans le sang de leur massacre gigantesque l'absurde idée du prolétariat de vouloir infliger le travail aux classes oisives et repues. Et c'est pour détourner ce malheur qu'ils s'entourent de prétoriens, de policiers, de magistrats, de geôliers entretenus dans une improductivité laborieuse. On ne peut plus conserver d'illusions sur le caractère des armées modernes. Elles ne se sont maintenues en permanence que pour comprimer l'ennemi intérieur. C'est ainsi que les forts de Paris et de Lyon n'ont pas été construits pour défendre la ville contre l'étranger, mais pour l'écraser en cas de révolte. Et s'il fallait un exemple sans réplique, citons l'armée de la Belgique, de ce pays de cocagne du capitalisme. Sa neutralité est garantie par les puissances européennes. Et cependant, son armée est une des plus fortes proportionnellement à la population. Les glorieux champs de bataille de la brave armée belge sont les plaines du Borinage et de Charleroi. C'est dans le sang des mineurs et des ouvriers désarmés que les officiers belges trempent leurs épées et ramassent leurs épaulettes. Les nations européennes n'ont pas des armées nationales, mais des armées mercenaires. Elles protègent les capitalistes contre la fureur populaire qui voudrait les condamner à 10 heures de mine ou de filature. Donc, en se serrant le ventre, la classe ouvrière a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie condamnée à la surconsommation. Pour être soulagée dans son pénible travail, la bourgeoisie a retiré de la classe ouvrière une masse d'hommes de beaucoup supérieure à celle qui restait consacrée à la production utile. et elle l'a condamné à son tour à l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bouges inutiles, malgré sa voracité insatiable, ne suffit pas à consommer toutes les marchandises que les ouvriers, abrutis par le dogme du travail, produisent comme des maniaques, sans vouloir les consommer, et sans même songer si l'on trouvera des gens pour les consommer. En présence de cette double folie des travailleurs, de se tuer de surtravail et de végéter dans l'abstinence, le grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. Puisque les ouvriers européens, grelottant de froid et de faim, refusent de porter les étoffes qu'ils tissent, de boire les vins qu'ils récoltent, les pauvres fabricants, ainsi que des dératés, doivent courir aux antipodes, chercher qui les portera et qui les boira. Ce sont des centaines de millions et de milliards que l'Europe exporte tous les ans aux quatre coins du monde à des peuplades qui n'en ont que faire. Mais les continents explorés ne sont plus assez vastes. Il faut des pays vierges. Les fabricants de l'Europe rêvent nuit et jour de l'Afrique, du lac saharien, du chemin de fer du Soudan. Avec anxiété, ils suivent les progrès des Livingstone, des Stanley, des Duchayu, des Brazza. Bouche béante, ils écoutent les histoires mirobolantes de ces courageux voyageurs. Que de merveilles inconnues renferme le continent noir. Des champs sont plantés de dents d'éléphants, des fleuves d'huile de coco charrient des paillettes d'or, des millions de culs noirs, nus comme la face de Dufort et de Girardin, attendent les cotonnades pour apprendre la décence, des bouteilles de schnapps et des bibles pour connaître les vertus de la civilisation. Mais tout est impuissant. Bourgeois qui s'empiffrent, classe domestique qui dépasse la classe productive, nations étrangères et barbares que l'on engorge de marchandises européennes. Rien, rien ne peut arriver à écouler les montagnes de produits qui s'entassent plus hautes et plus énormes que les pyramides d'Égypte. La productivité des ouvriers européens défie toute consommation, tout gaspillage. Les fabricants, affolés, ne savent plus où donner de la tête. Ils ne peuvent plus trouver la matière première pour satisfaire la passion désordonnée, dépravée de leurs ouvriers pour le travail. Dans nos départements lainiers, on effiloche les chiffons souillés et à demi pourris. On en fait des draps dits de renaissance, qui durent ce que durent les promesses électorales. À Lyon, au lieu de laisser à la fibre soyeuse sa simplicité et sa souplesse naturelle, on la surcharge de sels minéraux qui, en lui ajoutant du poids, la rendent friable et de peu d'usage. Tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l'écoulement et en abréger l'existence. Notre époque sera appelé l'âge de la falsification, comme les premières époques de l'humanité ont reçu les noms d'âge de pierre, d'âge de bronze, du caractère de leur production. Des ignorants accusent de fraude nos pieux industriels, tandis qu'en réalité, la pensée qui les anime est de fournir du travail aux ouvriers qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés. Ces falsifications qui ont pour unique mobile un sentiment humanitaire, mais qui rapportent de superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, si elles sont désastreuses pour la qualité des marchandises, si elles sont une source intarissable de gaspillage du travail humain, prouvent la philanthropique ingéniosité des bourgeois et l'horrible perversion des ouvriers qui, pour assouvir leurs vices de travail, obligent les industriels à étouffer les cris de leur conscience et à violer même les lois de l'honnêteté commerciale. Et cependant, en dépit de la surproduction de marchandises, en dépit des falsifications industrielles, les ouvriers encombrent le marché innombrablement, implorant « du travail, du travail !» Leur surabondance devrait les obliger à réfréner leur passion. Au contraire, elle la porte au paroxysme. Qu'une chance de travail se présente, il se rue dessus. Alors, c'est 12-14 heures qu'ils réclament pour en avoir leur sou. Et le lendemain, les voilà de nouveau rejetés sur le pavé, sans plus rien pour alimenter leur vice. Tous les ans, dans toutes les industries, des chômages reviennent avec la régularité des saisons. Au surtravail meurtrier pour l'organisme succède le repos absolu pendant des 2 ou 4 mois, et plus de travail, plus de pitance. Puisque le vice du travail est diaboliquement chevillé dans le cœur des ouvriers, puisque ses exigences étouffent tous les autres instincts de la nature, puisque la quantité de travail requise par la société est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en 6 mois le travail de toute l'année? Pourquoi ne pas le distribuer uniformément sur les 12 mois et forcer tout ouvrier à se contenter de 6 ou de 5 heures par jour pendant l'année, au lieu de prendre des indigestions de 12 heures pendant 6 mois? Assurés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'arracher le travail des mains et le pain de la bouche. Alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse. Abêtis par leurs vices, les ouvriers n'ont pu s'élever à l'intelligence de ce fait que, pour avoir du travail pour tous, il fallait le rationner comme l'eau sur un navire en détresse. Cependant, les industriels, au nom de l'exploitation capitaliste, ont depuis longtemps demandé une limitation légale de la journée de travail. Devant la commission de 1860 sur l'enseignement professionnel, un des plus grands manufacturiers de l'Alsace, M. Bourcard de Guebwiller, déclarait que la journée de travail de 12 heures était excessive et devait être ramenée à 11 heures, que l'on devait suspendre le travail à 2 heures le samedi. Il disait « Je puis conseiller l'adoption de cette mesure, quoiqu'elle paraisse onéreuse à première vue. Nous l'avons expérimentée dans nos établissements industriels depuis 4 ans, et nous nous en trouvons bien, et la production moyenne, loin d'avoir diminué, a augmenté. » Fin de citation. Dans son étude sur les machines, M. Passy cite la lettre suivante d'un grand industriel belge, M. Hautevert. Nos machines, quoique les mêmes que celles des filatures anglaises, ne produisent pas ce qu'elles devraient produire et ce que produiraient ces mêmes machines en Angleterre, quoique les filatures travaillent 2 heures de moins par jour. Nous travaillons tous 2 grandes heures de trop. J'ai la conviction que si l'on ne travaillait que 11 heures au lieu de 13, nous aurions la même production et produirions par conséquent plus économiquement. D'un autre côté, M. Leroy Beaulieu affirme que c'est une observation d'un grand manufacturier belge que les semaines où tombe un jour férié n'apportent pas une production inférieure à celle des semaines ordinaires. Ce que le peuple, pipé en sa simplesse par les moralistes, n'a jamais osé, un gouvernement aristocratique l'a osé. Méprisant les hautes considérations morales et industrielles des économistes qui, comme les oiseaux de mauvais augure, croissaient que diminuer d'une heure le travail des fabriques c'était décréter la ruine de l'industrie anglaise, le gouvernement de l'Angleterre a défendu par une loi, strictement observée, de travailler plus de 10 heures par jour. Et après comme avant, l'Angleterre demeure la première nation industrielle du monde. La grande expérience anglaise est là. L'expérience de quelques capitalistes intelligents est là. Elle démontre irréfutablement que, pour puissancer la productivité humaine, il faut réduire les heures de travail et multiplier les jours de paye et de fête. Et le peuple français n'est pas convaincu. Mais si une misérable réduction de 2 heures a augmenté en 10 ans de près d'un tiers la production anglaise, quelle marche vertigineuse imprimera à la production française une réduction légale de la journée de travail à 3 heures? Les ouvriers ne peuvent-ils donc comprendre qu'en se surmenant de travail, ils épuisent leurs forces et celles de leur progéniture? Que usés ils arrivent avant l'âge à être incapables de tout travail? Qu'absorbés, abrutis par un seul vice, ils ne sont plus des hommes mais des tronçons d'hommes? Qu'ils tuent en eux toutes les belles facultés pour ne laisser debout et luxuriante que la folie furibonde du travail? Ah, comme des perroquets d'Arcadie, ils répètent la leçon des économistes. Travaillons, travaillons pour accroître la richesse nationale. Oh, idiot! C'est parce que vous travaillez trop que l'outillage industriel se développe lentement. Cessez de braire et écoutez un économiste. Il n'est pas un aigle, ce n'est que M. Rebaud, que nous avons eu le bonheur de perdre il y a quelques mois. C'est en général sur la condition de la main-d'œuvre que se règle la révolution dans les méthodes de travail. Tant que la main-d'œuvre fournit ses services à bas prix, on la prodigue. On cherche à l'épargner quand ses services deviennent plus coûteux. Pour forcer les capitalistes à perfectionner leurs machines de bois et de fer, il faut hausser les salaires et diminuer les heures de travail des machines de chair et d'os. Les preuves à l'appui ? C'est par centaines qu'on peut les fournir. Dans la filature, le métier renvideur, self-acting mule, fut inventé et appliqué à Manchester parce que les fileurs se refusaient à travailler aussi longtemps qu'auparavant. En Amérique, la machine envahit toutes les branches de la production agricole, depuis la fabrication du beurre jusqu'au sarclage des blés. Pourquoi ? Parce que l'Américain, libre et paresseux, aimerait mieux 1000 morts que la vie bovine du paysan français. Le labourage, si pénible en notre glorieuse France, si riche en courbatures, est, dans l'Ouest américain, un agréable passe-temps au grand air que l'on prend assis, en fumant nonchalamment sa pipe.